Bonjour Emmanuel, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins et ravi de vous retrouver en ce début de semaine. On est ensemble pendant une heure. Hey, you know what? Cette émission vous propose tous les jours des traversées du réel grâce à Geneviève Méric, Géraldine Mosna-Savoie, Marianne Chassor, Tristan Grenassia et Laure Andrion. Elle explore la folie et la poésie musicale grâce à Philippe Baudouin. Cette semaine à la réalisation, avec aujourd'hui à la prise de son, Vincent Ronet. À 10h50, vous retrouverez François Nudelmann pour le Journal de la philosophie. François recevra aujourd'hui Jean-Louis Chrétien pour vous parler de l'édition des œuvres philosophiques d'Henri Maldinet, parue aux éditions du Cerf. Cette semaine est sous le signe de l'ondulation et de l'écoulement. De l'océan à la tasse de thé, les vagues aux gouttes de pluie, l'eau comme métaphore vive de l'écriture de Virginia Woolf. Contemporaine de James Joyce, d'Henry Miller, de Marcel Proust, l'auteur de Mrs. Dalloway crée un espace entre l'héritage victorien et l'irruption de la modernité. Un espace d'autant plus fécond qu'il n'est pas quantitatif, mais qualitatif. L'écriture de Woolf est flux, intensité et fragments. Renouveau total de la forme romanesque, entremêlement des genres, des voix, et surtout, célébration de la perception de la sensation comme mode d'accès privilégié au réel. Une semaine en compagnie de Mrs. Woolf, donc, à boire du thé et à se demander qui on est, c'est ce que vous propose Les Nouveaux Chemins cette semaine, avec demain, mardi, Catherine Bernard qui viendra vous parler de Mrs. Dalloway et de l'écriture du moi. Mercredi, Françoise Duroux et Anne-Marie Smith-DiBiasio qui viendront vous parler d'une chambre à soie et des trois guinées, c'est-à-dire du féminisme de Woolf. Et Christine Régnier qui nous contera l'influence de la morale philosophique victorienne sur l'éthique de Virginia, ce sera jeudi. Mais aujourd'hui, pour commencer cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Jacques Aubert, sous la direction duquel viennent de paraître les œuvres romanesques de Virginia Woolf, en Pléiade, et qui vient aujourd'hui nous parler de la poétique de l'immense Mrs. Woolf.
Words, English words, are full of echoes, memories, associations. They've been out and about on people's lips.
Les mots, des mots anglais, regorgent d'échos, de souvenirs et d'associations. Ils ont beaucoup voyagé sur les lèvres des gens, dans leurs maisons, dans les rues, dans les champs, pendant de si nombreux siècles. Et c'est là que réside la difficulté principale lorsqu'il s'agit de les utiliser aujourd'hui. Ils sont chargés de tant de sens et de souvenirs et sont reliés si souvent entre eux. Pensez à ce que cela pourrait signifier si l'on pouvait enseigner et par là apprendre l'art de l'écriture. Chaque livre, chaque journal serait détenteur de vérité et capable d'engendrer la beauté. On se rendrait cependant compte qu'il existe des obstacles pour nous barrer la route dans l'enseignement des mots. Ils sont la plus sauvage, la plus libre, la plus irresponsable et la moins transmissible des choses. Nous pouvons bien sûr les regrouper, les trier et les ranger dans les dictionnaires en suivant l'ordre alphabétique. Mais les mots ne vivent pas dans les dictionnaires, ils vivent dans l'esprit.
Bonjour Jacques Aubert.
Bonjour.
Bienvenue sur Les Nouveaux Chemins et merci d'ouvrir cette semaine sur Virginia Woolf. Donc je suis ravie de l'ouvrir à votre compagnie. Il était émouvant d'entendre la voix de Virginia Woolf.
Tout à fait.
C'était en 1937, le 29 avril 1937 sur la BBC. Et on l'entend dire, la fin de l'extrait qu'on a entendu disait ceci, hein, les mots ne vivent pas dans les dictionnaires, ils vivent dans l'esprit. On a là une formulation assez synthétique de la poétique de Virginia Woolf.
Absolument, absolument. À cela près justement que c'est là-dessus qu'elle travaillait, c'est-à-dire qu'elle transformait aussi le langage. Et, elle a parlé quelquefois d'une grande guerre qu'elle menait. Et bon, c'est pas exactement dans le même contexte, mais c'est assez vrai qu'il y a chez elle Derrière ce que vous avez évoqué d'un flux, d'un certain lisse de son écriture, une violence tout à fait grande, tout à fait extraordinaire, et qu'elle a elle-même évoquée à plusieurs reprises, et qui faisait écho à la violence qu'il avait atteinte à plusieurs reprises, dans une manière absolument tragique, quasiment tragique, et qui s'est terminée aussi, comme vous le savez, à la fin de sa vie. Cette violence est revenue précisément déplacer le réel. Vous avez indiqué de parler tout à l'heure d'accès au réel. Je crois que la question chez Virginia Woolf se situe en quelque sorte dans un trajet inverse. C'est-à-dire qu'elle serait partie d'un réel au sens le plus problématique du terme, précisément celui que le bachelard de le nouvel esprit scientifique évoqué, c'est-à-dire non pas ce que l'on pourrait croire, mais ce qu'on aurait dû penser, c'est-à-dire ce qu'on a raté. Alors c'est le réel de la science, d'accord, mais il est étrangement proche du réel de l'expérience humaine. L'existence humaine, elle est faite justement de traverser de l'expérience, et de traverser, c'est d'ailleurs l'enseigne de son premier roman, et cette prise en compte du réel, pour elle, me paraît tout à fait essentielle.
Alors, vous avez déjà évoqué beaucoup d'aspects de la vie et de l'œuvre de Virginia Woolf. Je rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, que Virginia Woolf est née en 1882, qu'elle est morte en 1941. Elle s'est donné la mort. Sa mort est connue, je ne sais pas si en tout cas elle est connue de certains de ses lecteurs, puisqu'elle s'est en fait noyée dans l'eau en se remplissant les poches de pierres assez lourdes pour que son corps reste en bas de l'eau et ne remonte pas à la surface. On retrouve là cette importance de l'eau, hein, que j'évoquais en début d'émission et qui traverse toute son œuvre. Et vous parlez de cette violence dans le rapport au réel et dans la façon que Virginia Woolf a d'essayer de trouver dans les mots peut-être à la fois une manière d'exprimer cette violence et en même temps une forme de réconfort, en tout cas une manière alternative d'accéder au monde sans passer par l'univers scientifique et l'univers du savoir. Là, il faut vraiment contextualiser l'œuvre de Virginia Woolf. On est au début du XXe siècle, il y a Darwin d'un côté, Freud de l'autre, et toutes ces découvertes scientifiques vont avoir un impact réel dans l'esprit des gens et dans le travail de l'écriture des écrivains.
Absolument. Et dans le cas des écrivains anglais de la fin du XIXe siècle, du début du XXe, les problèmes liés au darwinisme, liés à la crise non seulement de la science, mais la crise de la religion, la crise de la croyance, c'est absolument fondamental. C'est-à-dire la fin des garanties divines. Et du coup, quelque chose qui a à voir avec d'autres aspects de l'expérience humaine, en particulier la question aussi bien de la beauté et la question de l'écriture. C'est là qu'on rencontre toute une série d'analyses tout à fait diverses qu'on peut évoquer, qui incluraient aussi bien Michel Foucault que d'autres écrivains. Je pensais à Foucault à propos de la question de la naissance de la littérature. Lorsqu'il dit dans Les mots et les choses que une des conséquences du développement des sciences humaines, en particulier des sciences du langage, c'est la naissance de la littérature. La naissance de la littérature comme centrée sur l'acte d'écrire. L'acte de la déposition, dit-il, précautionneuse, sur la page blanche du mot. Et il y a quelque chose de cela chez Virginia Woolf, qui est précisément cette question du blanc, qui est aussi le silence et qui est aussi ce qui peut être le plus destructeur. À la fin de sa vie, au moment, enfin quelques mois avant de se suicider, elle dit « il n'y a plus d'écho ». Et c'est-à-dire que le silence est devenu total, est devenu sans espoir, c'est-à-dire il n'y a plus d'autre au sens de la garantie, les garanties divines, mais il n'y a plus non plus d'autres d'altérité dans le monde des vivants. Mais ça voulait dire aussi, je pense, il n'y a plus d'espace qui fasse lieu au sens de limite. C'est ce qui, pour elle, pouvait compter avec, par exemple, une chambre à soi. « A room of one's own », et le mot d'ailleurs est intéressant parce que c'est « room » est ambigu en anglais. Ce n'est pas forcément « bedroom », c'est tout ce qui est espace, mais espace délimité.
D'ailleurs, l'ouvrage « A room to one's own », je crois que c'est ça, a été également traduit « une pièce bien à soi ».
Voilà, c'est
on
ça.
Peut traduire soit par chambre, soit par pièce.
Voilà.
Et c'est un essai qui est publié en 1929, je
voilà.
me rappelle.
Mais c'est là qu'on retrouve, au fond, une définition quasi, disons, philosophique aussi du lieu, la définition aristotélicienne, c'est la limite intérieure. La limite intérieure, enfin, je passe la fin de la définition aristotélicienne qui ne nous concerne pas ici, mais cette idée de limite intérieure, c'est-à-dire de limite pour le sujet humain. Et c'est à quoi elle a été exposée dès ses débuts et y compris au moment même où elle écrivait, où elle commençait à écrire, d'être, quand il n'y a plus de limite intérieure, on est envahi par le monde extérieur. On est envahi, et dans son cas, c'était envahissement par les voix, par les voix qui lui rendaient la vie impossible. C'est ce qui a été la grande crise des années, du début des années 10, 12, 15, elle est entrée dans la folie. Et c'est précisément ce qui s'est à nouveau passé tout à la fin de sa vie.
Sur la maladie mentale, et il n'était pas très discret, ni elle non plus. Elle parlait beaucoup, elle parlait librement de ces périodes de folie. Elle disait, au commencement de la guerre, j'étais folle, je m'en souviens très peu, etc. J'ai été même, comme jeune homme, étonné combien elle voulait parler, sans égard, sans réticence aucune de ces moments de folie. Sur son travail, commençait toujours le moment dangereux quand elle finissait un livre. À ce moment, elle tombait malade. Les critiques étaient pour elle comme des gens qui disent « ce que vous dites est de la folie ». C'était une chose terrible pour elle. Elle avait vu quelque chose à l'intérieur et voulait l'exprimer. Si elle réussissait à exprimer la chose, alors c'était bien, elle était saine. Mais si on riait, si on trouvait que c'était ridicule, alors elle était folle. Alors, une mauvaise critique, c'était pour elle condamnation à la folie.
D'entendre Jacobert la voix de Quentin Bell, qui est le neveu de Virginia Woolf, au cours d'entretiens enregistrés par la BBC en 1972, où on entend le témoignage peut-être de ce que pouvait être la folie de Virginia, en tout cas perçue depuis les yeux de quelqu'un qui la côtoyait. Il dit, il semble dire à la fin de l'entretien qu'on a entendu, que pour elle, la mauvaise critique était vécue comme une condamnation à la folie. On voit bien les différentes causes de cette folie dont vous avez décrit rapidement les manifestations, et on va essayer de montrer comment l'écriture elle-même est le relais ou l'expression de cette folie. Mais comment ce que vous dites, hein, la façon qu'a le réel d'avoir un impact direct sur sa pensée, de la rendre littéralement folle.
C'est ça, c'est le drame est là, et la rencontre avec deux types de tumultes, de questionnements, de dérangements dans l'ordre du rapport du sujet humain au monde extérieur, c'était à la fois quelque chose de personnel et quelque chose qui était dans le temps, dans un moment de... On a parlé de coupure épistémologique, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est en cause. Et j'ai été extrêmement frappé en lisant son journal, le journal des années... son premier journal, c'est-à-dire du début du siècle, jusqu'avant la guerre de 14. Et elle a dit quelque chose de tout à fait intéressant, je trouve, à l'occasion d'un voyage en Italie avec sa sœur, son beau-frère qu'elle était en train d'ailleurs de subtiliser à sa sœur. Et elle comparait l'expérience de la peinture, qui comme par hasard était évidemment l'affaire de sa sœur. Hein. Ils avaient admiré ensemble une fresque du Pérugin. Et elle dit, s'il y a de l'action dans la peinture, ce n'est que pour mettre en valeur les lignes, mais avec comme visée la beauté. Et elle se met à faire tout un développement sur la beauté, enfin tout un développement, très bref, peu de choses sur la beauté. N'y a-t-il pas une autre sorte de beauté ? J'atteins une sorte de beauté différente, enfin, c'est ce qu'elle vise, elle est en train de commencer son premier roman. Et elle a commencé à écrire quelques petits textes, etc., très importants. Enfin, très importants comme mise en jeu. J'atteins une sorte de beauté différente, réalise une symétrie par le moyen de discords infinis, laissant voir toutes les traces du passage de l'esprit à travers le monde, et réalise, pour finir, une sorte de totalité constituée de fragments frémissants, de très très curieuses formules, shivering fragments, avec l'idée à la fois de frisson et l'idée d'éclat, de morceaux comme ceux d'une fenêtre brisée, par exemple. Tel me semble être pour moi le procès naturel, l'envol de l'esprit. Donc, elle prend en quelque sorte le réel du côté du ratage. Elle part du côté de l'éclatement. Et alors, lorsqu'elle parle de beauté, on pense à l'histoire de la beauté convulsive. La beauté sera convulsive ou elle ne sera pas. C'est sa variante à elle de la beauté convulsive. C'est la beauté éclatée, éclatante. Et tout se passe comme si précisément elle retrouve et veut élargir la fêlure qui est inaugurale dans tout système symbolique. Un système symbolique se constitue comme cela. C'est le meurtre de la chose, comme on a dit, etc. Mais dans son cas, c'est là qu'elle s'installe. C'est là qu'elle s'installe, et dans la mesure où c'est aussi quelque chose de l'effondrement de la mise en ordre que représente le langage, que représente la parole, on est dans l'ordre du fragment. Et elle évoque en quelque sorte par avance ce qui va se passer quelques années plus tard, non plus en 1908 comme dans ce texte-ci, mais dans les années qui ont suivi son mariage, à partir de 1912-1913, la grande époque de folie, 1915. Et elle a apporté là-dessus un témoignage absolument décisif.
Mais alors, comment faut-il comprendre, Jacques Aubers, le lien entre, d'un côté, ce constat d'un esprit fragmenté à l'état naturel, cette volée en éclats de l'esprit qui se traduit de manière littéraire au sein de l'écriture de Virginia Woolf elle-même, et de l'autre, cette forme narrative à laquelle on l'associe beaucoup, qui est, en anglais, on appelle « stream of consciousness », le flux de conscience ou le courant de conscience, qui est cette façon de traduire à l'écrit le processus de pensée d'un personnage qui est si caractéristique et qu'on retrouve, notamment ceux qui ont lu Mrs. Dalloway, voient très bien ce que signifie ce flux de conscience. Hein. On a une écriture qui décrit de manière simultanée ce qu'il se passe dans l'esprit du personnage et la façon dont elle perçoit le réel, ce qui fait que l'écriture procède par digression, par association parfois illogique, et cela remet en question toute une façon d'écrire qui avait lieu à l'époque. Et il me semble que ce flux-là, avec la métaphore de l'eau qui est très importante, rentre en contradiction avec l'état fragmentaire, qui dit fragment, dit éclatement, instant, vous voyez, instant découpé en termes bergsoniens, alors que le flux serait plutôt de l'ordre de la durée bergsonienne. Comment est-ce que les deux se rencontrent? Ou est-ce que c'est le signe de la folie, justement, de Virginia Woolf?
Non, c'est ça. C'est tout son effort, précisément, pour arrêter cela. Mettre une barrière, en quelque sorte, à cet envahissement. Et là, je pense à la formule de quelqu'un pour lequel j'ai une certaine admiration, plus que cela, qui a parlé de la fonction de la beauté. La barrière extrême à interdire l'accès à une horreur fondamentale. Derrière toute beauté, c'est ce qu'il y a, l'horreur.
C'est elle qui a écrit ça ?
Non, c'est pas elle, c'est Jacques Lacan.
C'est Jacques Lacan, c'est bien ce qui me semblait, que ça ne sonnait pas comme une écriture de Virginia Woolf.
Dans Kant avec Sade. Et c'est effectivement, enfin c'est, il n'a pas été, je pense, le premier à l'écrire, à le mettre en valeur, mais c'est cela qui est en cause. Effectivement, manifestement, dans son cas. Parce que le mot revient, dans le petit passage que j'ai cité, il revient au moins trois fois. Donc, c'est précisément cette expérience du réel, mais aussi de ce qu'on a, ce qu'on décrit aussi sous le terme de jouissance, c'est-à-dire ce qui est au-delà du plaisir et qui est précisément insupportable. C'est la jouissance en tant que ce qu'il ne faut pas. Et on peut presque jouer sur le mot de faux pas, c'est-à-dire le pas de trop, le pas de trop qui vous fait tomber. Et en tous les cas, ce qui est précisément insupportable pour le sujet humain. C'est au-delà des limites du sujet humain. Et donc, l'écriture va être cette espèce de barrage qu'elle essaye d'introduire. Et là, il y a des témoignages tout à fait directs, précisément sur ce moment-là.
Elle aurait pu marcher de la sorte jusqu'à s'égarer complètement si elle n'avait été interrompue par un arbre qui, bien que ne poussant pas sur son chemin, l'arrêta de façon aussi radicale que si les branches l'avaient frappée au visage. C'était un arbre ordinaire, mais il lui apparut à elle étrange, au point qu'il eût pu être le seul arbre au monde. Sombre était le tronc en son milieu, et les branches s'élançaient çà et là, ménageant entre elles des intervalles dentelés de lumière, aussi distincts que s'il eût à l'instant même surgi du sol. Ayant procuré une vision propre à l'accompagner une vie entière, et à préserver cet instant une vie entière, cet arbre retomba au rang des arbres ordinaires, et elle put s'installer sous son ombrage et cueillir des fleurs rouges aux délicates feuilles vertes qui poussaient au-dessous de lui. Elle les disposa côte à côte, fleurs contre fleurs, tiges contre tiges, les caressant. Car dans cette promenade solitaire, les fleurs et même les petits cailloux sur le sol avaient leur vie et leur disposition propre et faisaient ressurgir les sentiments d'une enfant dont ils étaient les compagnons. Levant les yeux, son regard fut arrêté par la ligne des montagnes qui zébraient énergiquement le ciel en coups de fouet. Elle regarda le ciel pâle au loin, et les hauts espaces dénudés au sommet des montagnes exposés au soleil. En s'asseyant, elle avait laissé tomber ses livres sur le sol à ses pieds, et maintenant elle les regardait, si carrés dans l'herbe, une haute tige penchée venant chatouiller la couverture brune et lisse de gibbon, cependant que le balzac bleu moucheté gisait tout nu au soleil.
Vous écoutez France Culture, vous êtes sur le nouveau chemin de la connaissance où nous parlons de Virginia Woolf toute cette semaine avec aujourd'hui en studio pour en parler Jacques Aubert, à qui l'on doit notamment la direction des œuvres romanesques de Virginia Woolf publiées tout récemment en Pléiade. Jacques Aubert, l'extrait qu'on a entendu juste avant, qui était interprété par la comédienne Anne Brissier, était un texte tiré de son premier roman, donc le premier roman de Virginia Woolf, que vous avez traduit par « traversée ». En anglais, c'est « voyage out ». Il me semble que là, l'expression anglaise est bien plus significative que le titre français. Et on entend donc le personnage principal, Rachel, qui se promène avec ses livres et qui tombe sur un arbre, littéralement, elle tombe devant cet arbre, et à la fin du texte, on voit comment elle dépose ses livres, elle les laisse tomber. Et vous y voyez une symbolique, il me semble, peut-être, de la façon qu'a le réel, parfois, de nous attraper comme ça au corps, indépendamment, du coup, de nous faire céder et nous débarrasser de toute forme de savoir.
Oui, bien sûr. Alors, précisément, le passage que vous venez de lire, là, est remarquable parce qu'il rejoint votre évocation du courant de conscience, du stream of consciousness. On voit comment on a un traitement d'une expérience du réel le plus fort concevable. Le réel en tant que, précisément, du côté de la jouissance, de l'impossible. N'est-ce pas, de l'impossible pour le sujet, de ce qui le pétrifie, n'est-ce pas, ce qui semble être proche de son être, etc. Mais on s'aperçoit aussi qu'elle intègre, elle n'est pas en quelque sorte réduite au silence par cette expérience, mais cette expérience la met en jeu jusque là où elle a été atteinte. Elle a été atteinte dans son corps par une espèce de pétrification. Elle a été fascinée, paralysée. Il y a eu quelque chose qui s'est passé pour elle. Elle est sidérée.
Alors peut-être rappeler en quelques mots ce qui se passe à ce moment-là du roman de traversée, quand même, pour qu'on ait en tête, oui. Pour qu'on puisse recontextualiser cet extrait.
Elle est précisément traversée par une expérience de ce genre, comme elle avait été traversée par l'expérience de la rencontre de l'amour d'un homme. Donc traversée, là, doit être entendue dans ce sens-là également.
Mais juste peut-être le roman traversé donne à voir la traversée de l'océan hein, par cette
bien, ce bien pers- entendu.
Non, mais il faut peut-être rappeler l'histoire comme ça on comprend aussi voilà. ce dont vous parlez.
Voilà, c'est un certain nombre de personnages qui effectivement sont en route pour l'Amérique du Sud, etc. Et qui vont passer quelque temps dans une colonie anglaise là-bas. Et il se passe un certain nombre de choses, notamment et pour finir. La mort de l'héroïne. Bon, la mort en quelque sorte accidentelle.
C'est un résumé en 17 secondes de ce roman.
En quelque sorte accidentelle. Mais alors, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que dans la dernière page, après de longues pages consacrées à la maladie et à la mort et à l'agonie de l'héroïne, nous revenons dans le monde reprend ses droits. Et ça se termine par. Toute l'assemblée de ces touristes qui va aller se coucher. Tout rentre dans l'ordre. Et d'une certaine manière, c'est ce qui se passe dans ce passage après l'arbre. Elle met de l'ordre dans cette espèce de nature qu'il avait agressée d'une certaine manière. Cet arbre était en trop d'une certaine manière aussi. Mais elle trouve le moyen précisément de s'entendre avec la nature, organiser cela de la façon que l'on sait, en refabriquant en quelque sorte un petit paysage à son échelle, elle maîtrise le paysage. Et il y a d'autres exemples qui sont de l'ordre de zoom, où l'on voit la focalisation qui passe dans des allers-retours entre des brins d'herbe et une évocation de l'Angleterre. Des scènes tout à fait curieuses qui évoquent précisément le cinéma. Elle a d'ailleurs plus tard parlé justement de tout ce que le cinéma pouvait apporter à l'art du point de vue des travelling, des zooms, etc. Et donc là, on a justement quelque chose qui est sa façon de traiter le réel. Elle le traitait aussi précisément dans ses longues promenades dans la nature. Mais aussi bien dans sa façon de refaire Londres dans ses pérégrinations. Dans ses pérégrinations ou simplement à travers la fenêtre, par les évocations dans Orlando, la fenêtre est tout à fait importante. De temps en temps, elle dit pratiquement... maintenant, il serait temps d'aller voir à la fenêtre ce qui se passe. Il se passe
mais c'est
choses.
Ça qui est étonnant dans l'écriture de Virginia Woolf, dans la plupart des textes qu'elle a écrits, que ce soit des romans ou des nouvelles, même parfois des récits qui ont une forme assez libre, c'est cet entremêlement entre différents genres narratifs. On peut passer d'un monologue intérieur qui nous conduit dans tous les altermoiements de la pensée du personnage, et tout d'un coup, un narrateur surgit et dit, comme vous le dites, maintenant, il est temps d'aller regarder par la fenêtre ce qu'il se passe.
Oui,
Et en même temps, on va avoir des descriptions objectives de Londres, puis tout d'un coup, des descriptions qui ne seront pas du tout objectives, mais qui seront celles des sensations à travers lesquelles le personnage va appréhender le réel qui l'entoure. Tout est entremêlé. Il y a une espèce l'éclatement dont vous parlez se retrouve dans l'éclatement des formes narratives.
Absolument. Et c'est pour ça qu'on ne peut, moi, à mon sens, on ne peut pas parler de poétique de Woolf en ce sens-là, par rapport au genre établi.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas une poétique, c'est ça? Il y en aurait plusieurs?
C'est ça, on ne peut pas voir ni une évolution. Ça a été en dents de scie. Ces types d'écritures ont été variés, se sont succédés sans logique particulière. Mais même en termes de genre, d'ailleurs, elle-même a passé son temps à chercher à utiliser différents mots en disant « je vais faire play-poem » ou enfin, elle a des tas. Elle est à la recherche de mots pour dire ça. Et en fait, bon, elle laisse tomber parce que il n'y en a pas qui correspondent véritablement à une histoire des genres. Et c'est exactement ce que Foucault, d'ailleurs, disait à propos de la naissance de la littérature. Il disait que c'est la fin des genres en tant que définis, éventuellement ayant une histoire, etc. On est dans un ordre de référence tout à fait autre et qui est tout simplement la question du déplacement vers l'écriture en tant que telle. C'est le geste d'écrire.
Mais l'écriture elle-même est l'expression d'une certaine conception de l'identité, du moi et de son rapport au monde.
Voilà. Et alors, mais alors justement, c'est là, en quelque sorte, l'histoire de la culture occidentale rejoint et fait écho à son histoire personnelle et la renforce. Il y a une rencontre là. Il y a une rencontre qui est précisément de l'ordre de l'expérience au sens le plus fort, et un rappel que nous sommes tous dans l'expérience. On ne sait pas où on va, puisque précisément, les garanties ont disparu. On a parlé de la mort de Dieu, enfin, etc. Mais l'agnosticisme que son père préconisait, c'était ça aussi. C'était un des aspects de cette histoire, de la fin de la garantie du souverain bien. Donc là, on est là. Et alors, c'est pour cela que le témoignage qu'elle a donné précisément de ce qui s'est passé dans cette période de folie, et elle l'a fini par en parler à une de ses amies dont elle était très proche dans les années 30, les années 20-30, lorsqu'elle dit une longue période, un moment d'étrangeté et de création, toutes sortes de cauchemars et de perceptions d'une invraisemblable intensité. Après ma maladie, je fabriquais tout le jour dans mon lit des poèmes, des histoires et des sentences à mes yeux profondes et inspirées, esquissant aussi, je crois, tout ce qu'aujourd'hui, à la lumière de la raison, j'essaye de traduire en prose.
Mais ce qui est fascinant dans ce travail-là de traduction des sensations et du vécu dans et par l'écriture, que ce soit la prose ou la poésie, c'est que si Virginia Woolf a renoncé à trouver un sens, et en cela, en effet, elle est emblématique de son époque, hein, l'éclatement est celui du sens du monde dans lequel nous vivons, dans lequel, en tout cas, il vivait à l'époque, si elle a renoncé à trouver un sens, elle n'a pas renoncé, et il me semble que c'est aussi ce qui guide son écriture, à essayer de toucher ou d'exprimer la vie en tant que telle. On a là un déplacement, on n'essaye pas de trouver un sens, mais d'exprimer la vie. Et en cela, peut-être son projet d'écriture se rapproche de celui de quelqu'un comme Proust, qui d'ailleurs est son contemporain, et qui consacre de nombreuses pages au sein de la recherche, justement, à décrire comment l'artiste lui-même peut essayer d'atteindre la vraie vie. Hein, la vraie vie, par conséquent, réellement vécue, dit-il, c'est la littérature.
Absolument. Absolument. Je vois d'ailleurs la rencontre avec Proust, pour elle, avec l'écriture de Proust, a été une expérience majeure. Elle est arrivée, certes, trop tard pour que, heureusement, on ne puisse pas parler d'influence, mais c'était une vraie rencontre. Une vraie rencontre d'une sensibilité, d'une histoire personnelle différente de part et d'autre.
En pensant à tous les paysages indifférents qui allaient s'illuminer et qui, la veille encore, ne m'eussent rempli que du désir de les visiter, je ne pus retenir un sanglot. quand dans un geste d'offertoire mécaniquement accompli et qui me parut symboliser le sanglant sacrifice que j'allais avoir à faire de toute joie chaque matin jusqu'à la fin de ma vie, renouvellement solennellement célébré à chaque aurore, de mon chagrin quotidien et du sang de ma plaie, l'œuf d'or du soleil, comme propulsé par la rupture d'équilibre qu'amènerait au moment de la coagulation un changement de densité, barbelé de flammes comme dans les tableaux, creva d'un bond le rideau derrière lequel on le sentait depuis un moment frémissant et prêt à entrer en scène et à s'élancer, et dont il effaça sous des flots de lumière la pourpre mystérieuse et figée. Je m'entendis moi-même pleurer.
Avait disparu. Il était derrière les nuages. On n'entendait plus rien. Les nuages auxquels les lettres E, G ou L s'étaient attachées se déplaçaient librement, comme s'ils étaient chargés de se rendre d'ouest en est avec une mission de la plus haute importance dont on ne saurait jamais rien. Sauf le fait que c'était exactement cela. Une mission de la plus haute importance. Et voilà, se dit Septimus en regardant le ciel. Ils me font des signaux. En fait, pas vraiment avec des mots. Enfin, pas dans une langue qu'ils sachent déchiffrer. Mais c'était bien assez évident. Cette beauté, cette exquise beauté. Et les larmes lui vinrent aux yeux, tandis qu'il regardait des mots de fumée s'effacer et se fondre dans le ciel, et lui dispenser leur charité inépuisable et leur bonté rieuse, une forme succédant à une autre, d'une beauté inimaginable, et lui signalant leur intention de lui prodiguer, pour rien, pour toujours, simplement parce qu'il les regardait, de la beauté, toujours davantage de beauté. Les larmes coulaient le long de ses joues.
Jacobert, lorsqu'on entend côte à côte ces deux textes, hein, d'abord le texte de Proust que j'ai lu juste avant, et ensuite un extrait de Mrs. Dalloway interprété par Anne Brissier, déjà il est frappant de voir la proximité même dans le choix du vocabulaire. Dans le texte de Proust, il parlait de frémissement, et vous aviez parlé tout à l'heure de ces fragments frissonnants, hein, mais
oui,
c'est, on est dans
oui,
le même
oui,
registre.
Tout à fait, frémissant. Oui,
et ce rapport à la beauté d'un côté comme de l'autre, hein, le ciel qui s'offre à nous et qui du coup nous fait vivre cette expérience d'une beauté inimaginable, nous dit Woolf, voilà. Le lien est vraiment surprenant.
Tout à fait. Et tout est dans précisément le traitement de l'affaire, c'est-à-dire arriver à retrouver dans le monde extérieur ce qui a été, ce qu'elle dit, des dépôts de l'expérience. Et dans un premier brouillon de son premier roman, il y a un passage absolument prodigieux qu'elle a supprimé, et où elle parle de cette histoire du dépôt de l'expérience dans d'autres termes, à propos d'un grand poète anglais mélancolique du XVIIIe siècle, et où elle s'est trouvée une certaine parenté, avec laquelle elle a trouvé une réelle parenté. Alors, elle prend la parole pour dire, pour expliquer son... Elle dit ce qu'elle reprochait aux vivants était qu'ils ne se rendaient pas compte de l'existence des statues noyées, des lieux indécouverts, de la naissance du monde, de la ténèbre finale et de la mort. Au seul homme qui, à ce jour, lui ait demandé de l'épouser, elle avait répondu que cela lui paraissait ridicule. C'est qu'elle s'attendait quasiment à ce qu'elle se manifestât l'année suivante sous la forme d'un massif de fleurs blanches. Elle, c'est fou. Depuis le tout début de sa vie consciente, cette conscience avait porté sur ce que, dans son goût pour les expressions vagues, elle appelait la Grande Guerre. C'était une guerre visant à défendre des choses comme des pierres, des jarres, des épaves au fond des mers, des arbres, des étoiles, de la musique, contre les gens qui croient à ce qu'ils voient. Ce n'était pas facile à expliquer, à supposer que Rachel eût su ce qu'elle voulait dire.
Mais contre les gens qui croient à ce qu'ils voient, est-ce qu'il faut entendre là une forme de scepticisme radical de Woolf à l'égard de la réalité ?
Oui, un scepticisme métaphysique, enfin quelque chose qui précisément est tragique, peut-être tragique, quoi. Et c'est précisément ce qui arrivait dans les moments les plus terribles. Elle était seule à le croire. C'est là que Léonard a joué un rôle.
Léonard Woolf est donc son mari, oui, qu'elle épousa, ce qui ne l'empêcha pas d'avoir une histoire, une aventure avec une femme, voilà. Vita, hein, à laquelle elle va dédier d'ailleurs des textes. Ce qui nous conduit, d'ailleurs il nous reste quelques minutes avant la fin de cette émission, Jacques Aubert, mais à un deuxième texte qu'on voulait évoquer aujourd'hui, qui lui s'appelle Orlando, qui est publié en 1928 et qui, c'est assez amusant parce que là c'est une fausse biographie d'un homme devenu femme, qu'on a pu lire comme une sorte de longue lettre d'amour dédiée à Vita Sackville-West, c'était le nom de sa compagne. Et alors là, il peut être surprenant d'entendre ce thème-là abordé, puisque tout ce qu'on a dit au cours de cette émission ne laissait pas attendre de la part de Virginia Woolf une réflexion notamment, non seulement sur le genre, et cet aspect qui est plutôt décalé, voire humoristique, de faire une fausse biographie d'un homme qui devient une femme, Jacques Aubert.
Oui, c'est... voilà, ça nous entraînerait évidemment dans d'autres considérations. La question de la différence sexuelle, la différence de l'impossible rapport entre les sexes, d'une certaine manière.
Mais est-ce qu'on est si loin de ce qu'on disait juste avant ? Je ne suis pas si sûre, entre la question du rapport du corps au monde et la même peut-être entre les corps eux-mêmes.
Mais absolument. C'est simplement à la puissance X, hein, le non-rapport absolu. Précisément, qui n'est garanti par personne, et par aucune, certainement aucun usage social, pas plus qu'aucune théorie. Donc ça suppose une extraordinaire liberté à certains égards, et en même temps une extraordinaire fragilité, dans la mesure où, précisément, il faut trouver ces mots qui n'existent qu'entre amants, dit-elle, ou entre... Comme elle le dit, dans le rapport d'un enfant à sa mère. C'est à propos justement de l'écriture. Vers la fin des vagues, elle dit « Quelle est la belle phrase pour la lune et la belle phrase pour l'amour ? De quel nom doit-on appeler la mort ? Je ne sais pas. Il me faudrait une langue intime comme en usent les amants. Des mots d'une seule syllabe, comme en disent les enfants lorsqu'ils entrent dans la pièce » et trouvent leur mère en train de coudre et ramassant un morceau de laine de couleur vive, une plume ou un bout de jeans. Il me faudrait un hurlement, un cri, etc. etc. Et c'est là qu'on voit une fois de plus ce qu'on apercevait tout à l'heure, je crois, c'est la réponse du monde extérieur, là qu'elle allait trouver dans ses balades infinies, dans la campagne, et où elle trouvait un écho à ce qui était en elle. Dans son expérience, dans ses déchets de l'expérience. Jusqu'au moment où elle n'a plus trouvé d'écho, précisément parce que sa maison de Londres avait disparu et c'était là qu'elle écrivait. Il n'y avait plus de lieu qui fasse limite par l'écriture.
Et pourtant, l'évocation du texte d'Orlando nous permet quand même d'aborder un thème que l'on n'a pas évoqué au cours de l'émission, et ce serait dommage de ne pas le dire dès la première émission que nous consacrons à Virginia Woolf, puisqu'on en parlera encore demain, mercredi, puis et enfin jeudi. C'est quand même l'humour. Orlando est un texte qui fait preuve d'humour et qui montre que malgré le scepticisme dont nous parlons, la folie, cette douleur dans le rapport au monde et cette impossibilité d'une communion avec autrui, et même de situer autrui dans un lieu précis, cette espèce d'hors lieu, hors temps, hors espace, chez Virginia Woolf est certes tragique, mais elle ne renonce pas à toute forme, non seulement de création, ce qui est quand même un acte de... Enfin, quiconque crée exprime aussi un désir de rester en vie. Et l'humour qu'il a est une posture sans doute littéraire, mais qui montre que le tragique a peut-être une issue.
Tout à fait. C'est extrêmement frappant. Et à cet égard, je considère qu'Orlando est son ouvrage le plus satisfaisant, le plus achevé. Il est beaucoup plus complet, précisément sur ce point que vous venez d'évoquer. Je suis mille fois d'accord avec vous sur ça. Et ça correspond au témoignage que nous avons sur le personnage qu'elle a été, je veux dire la personne qu'elle a été.
Personnellement, je me trouve dans une situation différente aux autres observateurs, je crois. Parce que j'ai jamais eu peur d'elle. Comme enfant, au commencement, elle était toujours charmante avec les enfants. Elle entrait dans les jeux des enfants. Elle avait une imagination qui la laissait prendre part aux jeux d'enfants, aux imaginations, etc. Alors, quand elle arrivait, c'était pour nous une délice. Quelle joie va tenir arriver aujourd'hui, etc. Je n'ai très rarement vu, sauf dans des moments de catastrophe familiale, de vraies tragédies, mais en général, je l'ai vue gaie, riante. C'est difficile pour moi de penser à elle comme un personnage tragique. C'était même pour moi un choc extraordinaire quand j'ai su qu'elle s'était suicidée. C'était inimaginable, quoique je savais très bien qu'elle avait été folle, mais elle était tellement gaie et toujours de bonne humeur, presque toujours. Every woman's Virginia Woolf, and walking through a sleepless night, black-eyed from another fight, telling jokes that everybody knows. When I give it all,
merci beaucoup, Jacobert. C'est un plaisir de discuter avec vous aujourd'hui et de commencer en votre compagnie cette semaine consacrée à Virginia Woolf. Je rappelle que c'est sous votre direction qu'ont été publiés les deux ouvrages consacrés aux œuvres romanesques de Virginia Woolf en Pléiade, aux éditions Gallimard. Et c'est également à vous que l'on doit l'édition de l'œuvre de James Joyce, en Pléiade toujours. Il est 10h50, vous écoutez France Culture, vous êtes sur les nouveaux chemins de la connaissance et c'est l'heure de retrouver, comme tous les jours, le journal de la philosophie. Avec vous, François Nudelman, bonjour.
Bonjour Adèle. Les philosophes restent souvent dans les mémoires pour des concepts, mais certains ont davantage marqué les esprits par une démarche, un style, un rythme de pensée. Henri Maldinet fait partie de ces penseurs singuliers. L'édition de ses œuvres complètes commence avec ce premier volume, paru au CERF, Henri Maldinet, regard, parole, espace. Jean-Louis Chrétien, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, poète, vous enseignez à l'université de la Sorbonne et vous avez présenté ce volume qui est établi par Christian Chaput, Philippe Grosos et Maria Villela-Petit. Est-ce que vous pourriez nous rappeler qui est Henri Maldinet ? Parce que peu connu malheureusement, alors que vous avez dit combien il a laissé des traces.
Henri Macdinet est un philosophe français qui est né en 1912 et qui donc est à présent dans sa 100e année. Nous espérons qu'il fêtera ses 100 ans en août prochain. Il a été pendant toute sa carrière, après un poste à Gand, professeur à l'université de Lyon, où il a marqué beaucoup d'esprits, non seulement des philosophes, mais également des psychiatres et des psychologues, puisqu'il donnait, en dehors de cours de philosophie et de philosophie de l'art particulièrement, des cours de psychologie phénoménologique. Et ça a été d'abord un grand maître par ses cours et par ses conférences, qui a ainsi acquis une présence dans beaucoup d'esprits. Son œuvre écrite, très importante, fut tardive. Elle parut au début le premier livre, celui qui est réédité, Regard par l'espace, date de 1971, et les volumes s'échelonnèrent ainsi jusqu'à peu près 2000.
Oui, les essais d'ailleurs sont parus là, en fait, depuis 1950, éparpillés, et c'est le premier volume là qui
est réédité. Oui, c'est cela. Regard par l'espace, qui est une très bonne introduction à la philosophie de Macdinet, non seulement parce que ce fut son premier ouvrage paru, mais parce qu'on a toutes les dimensions de son œuvre, c'est-à-dire une dimension proprement philosophique, en particulier avec la fin où il réfléchit en dialogue avec Husserl et Hegel, mais d'une façon très originale et personnelle, sur le sentir, mais aussi des essais sur la peinture et sur la psychologie ou psychiatrie phénoménologique, oui, dont il fut en quelque sorte un des introducteurs en France.
Oui. Quand on pense à Macdinet, on pense souvent à trois domaines, la peinture, la psychiatrie, la phénoménologie. Alors, est-ce que ces ensembles sont liés ou séparés ?
Oui, alors au premier abord, on peut avoir l'impression d'une très grande richesse, mais d'une certaine dispersion, parce que le lecteur peut ne pas voir au premier instant qu'est-ce qui fait l'unité entre tout cela. Vous disiez peinture, alors c'est un maître de l'analyse de la peinture, une analyse qui ne se réduit pas du tout ni à l'iconologie savante, ni à la pure histoire de l'art, mais qui a une dimension phénoménologique, proprement dite, qui nous fait en quelque sorte être aux œuvres et être avec elles dans une sorte de contemporanéité. Il faudra ajouter la poésie, sur laquelle il a également beaucoup écrit, et il a été pendant toute sa vie l'ami très proche de deux grands poètes complètement différents, à savoir Francis Ponge d'un côté, Macdinet est aussi un penseur du parti pris des choses, et par ailleurs André du Boucher. Donc à la peinture, il faut ajouter sa méditation sur la poésie et sur la parole.
Jean-Luc Chrétien, dans votre introduction, vous partez de l'idée du sentir qui caractérise Henri Macdinet, ce par quoi le sujet corps et âme advient au monde, et vous introduisez une autre notion aussi, qui est le pathique. Est-ce que vous pourriez un peu expliquer ce que sont ces notions ?
Oui, la philosophie depuis toujours a médité sur le sentir, mais surtout à propos de la sensation, oui, d'une sensation ponctuelle où je perçois telle ou telle qualité sensible. Macdinet, qui a été en quelque sorte ouvert à lui-même par la méditation à la lecture de Heidegger, voit le sentir dans l'horizon de l'être au monde, et pour lui le sentir n'est pas simplement une perception ponctuelle, mais une ouverture à toutes les dimensions de l'espace et du temps, et une communication primordiale avec la chair elle-même du monde, comme dirait Merleau-Ponty. Alors, le pathique, qu'il emprunte à des auteurs allemands que je n'ai pas le temps d'exposer ici, mais le pathique désigne précisément ce par quoi je suis profondément atteint, affecté et comme saisi, non pas simplement par une qualité sensible, mais par les dimensions de sa réalité. C'est une manière de penser, sous un concept qu'il définit rigoureusement, le choc, en quelque sorte, de l'être au monde et de la présence au monde qui m'atteint, et qui ne saurait se réduire à une constitution du sujet. Le sentir me fait communiquer avec le monde. Il est en quelque sorte avant la perception, comme perception de tel ou tel objet.
Jean-Luc Chrétien, je voudrais citer un des très beaux textes qui est dans ce volume, qui est de 1967, « L'esthétique des rythmes ». Et voilà ce que dit Henri Macdinet. « Le philosophe est un perturbateur. C'est là son trait commun avec l'artiste, s'il est vrai, comme dit Georges Braque, que l'art soit fait pour troubler et que la science rassure. Est-ce que vous pourriez commenter cela? Et est-ce que c'est une manière aussi de prendre parti pour la poésie, l'art, contre la science?
D'aucune manière, il ne s'agit pas du
contre, en tout cas, une tentation objectivante de la
oui,
science.
Oui, c'est plutôt ça, c'est d'aucune manière anti-scientifique. D'ailleurs, Magdina a une certaine culture mathématique, en particulier d'un certain niveau. Il ne s'agit pas d'irrationalisme en aucun sens du terme. Mais en effet, il y a une lutte contre une pensée, disons, objectivante, et qui justement ferait, par exemple, aussi bien de votre présence ou de la mienne, dans ce qui regarde l'aspect psychologique ou psychiatrique de l'œuvre de Magdiné, que de l'œuvre d'art, un simple objet. Et par exemple, pour l'œuvre d'art, une simple image, n'est-ce pas, qu'on pourrait aborder comme telle, indépendamment de sa communication avec le monde et de sa communication avec notre propre présence intégrale. Alors, quant à l'inquiétude pour laquelle il cite Braque, c'est précisément ce qui fait que Magdiné a été un peu méconnu au moment où ses livres sont parus, qui était la grande époque triomphale du structuralisme, précisément à cause des orientations de sa pensée, qui veulent résister à une objectivation complète où je suis en quelque sorte maître de tout, maître des œuvres quand je suis iconologue, etc.
Vous dites, Jean-Luc Chrétien, dans votre introduction, l'art est la gloire du sentir. Vous revenez sur cette notion. Est-ce que vous pourriez vous expliquer sur cette idée de gloire du sentir ?
C'est-à-dire que pour Magdiné, qui va jusqu'à dire que l'œuvre d'art existe, n'est-ce pas, en prenant le terme dans un sens fort, et possède par sa présence même une certaine transcendance, comme l'indique le terme d'exister, l'œuvre d'art n'est pas simplement un objet dont je jouirais dans une délectation esthétique. Dire qu'elle est la gloire du sentir, c'est dire qu'elle est véritablement un lieu d'épiphanie ou de manifestation des dimensions même de l'être et des dimensions même du monde. Et elle porte ce sentir aussi à sa plus haute clarté.
Oui, lieu de l'ouvert, de l'éclaircie. On sent évidemment tout l'apport phénoménologique qui est aussi le vôtre. Merci Jean-Luc Chrétien. Donc pour cette introduction, il faut lire ou relire Henri Maldinet, Regard, Parole, Espace, paru au CERF. Vous pouvez retrouver le journal de la philosophie sur le site de franceculture.fr.
Merci François, ainsi s'achève le nouveau chemin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite de cette semaine consacrée à Virginia Woolf. Demain, je recevrai Catherine Bernard qui viendra vous parler de Mrs. Dalloway et de l'écriture du moi chez Mrs. Woolf. Réécouter cette émission, c'est possible en vous rendant sur le site internet franceculture.fr à la page des Nouveaux Chemins. Vous trouverez également toutes les indications bibliographiques concernant l'émission de ce jour et toutes les indications musicales. Et vous pourrez également télécharger, podcaster cette émission afin de l'installer dans votre ordinateur ou sur votre lecteur MP3 pour pouvoir l'écouter où vous voulez, quand vous voulez. France Culture, il est 10h59. Dans un instant, Culture Monde.